tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. C'est Montesquieu, figurez-vous, qui a dit cela. Alors, il n'y a aucun doute possible. Vous êtes bien sur Canal M. C'est l'émission Un livre découvert, animée par Clotilde Seille et ses invités.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, on va commencer par notre invité bénévole. Ce sera Nicole Châtelain. Bonjour Nicole.
Bonjour.
C'est une première.
Oui.
On est bien content. Moi, j'adore ça.
Ah bon?
Mais oui, nouvelle voix, nouvelle énergie.
Un début
ça.
À tout.
Mais oui, absolument. Juste après, déjà arrivé aussi en studio, je suis très heureuse d'accueillir ici Francine Ruel. Bonjour Francine.
Bonjour.
Ensuite, en seconde heure, nous aurons peut-être avec nous, peut-être, un petit peut-être, mais Jean Brière qui nous parlera de l'œuvre de Theodore Stanger, cet homme qui est un Américain qui a vécu à Paris avant de retourner dans ses Amériques natales. Et du coup, ça a donné des bouquins absolument délicieux dont peut-être M. Brière viendra nous parler. Également, dans la seconde partie de l'émission, la chronique de bouche à oreille, la page de littérature, pour vous annoncer que la semaine prochaine, nous recevrons Bernard Tremblay qui nous parlera de La saison de l'ombre de Léonora Miano. Nous aurons aussi un fou de Marguerite Duras. Il s'appelle André Lavoie. Il est, entre autres, pigiste aux pages culturelles du Devoir. Donc, on abordera non pas l'œuvre en entier, mais surtout l'amant de Duras et la bio de Marguerite Duras par Laure Adler. Et puis, nous aborderons... Ah oui, ça c'est... Juste avant de partir en retraite, Pierre Foglia vous a demandé de sortir votre liste préférée de vos 10 livres préférés, votre top 10. Alors, on va nous s'intéresser à la top 10 de Monsieur Foglia, et puis la semaine prochaine, on s'intéressera à la mienne et peut-être à la vôtre. Restez là, parce que j'aimerais bien que vous participiez. Et puis, nous finirons bien sûr par quelques titres en rafale.
Le bénévole du jour.
Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors, c'est une première. Nicole, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici?
Six ans, sept ans, peut-être.
Ah, quand même. Vous en avez lu alors, hein?
Oui, plusieurs livres, souvent très intéressants.
Alors, du coup, vous aviez l'embarras du choix?
Pas nécessairement, parce qu'il y en a plusieurs. Non, parce qu'il y en a plusieurs, notamment... Les royaumes de Charles Quint, dont on ne parle pas vraiment au cours d'une émission comme celle-ci. C'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de voyages,
d'accord,
beaucoup trop de tableaux. Mais il y en a quelques-uns, oui, quelques-uns que j'ai beaucoup aimés, mais qui ont déjà de l'âge, puisque les enregistrements se font au fur et à mesure. Et je pense que vous choisissez plutôt des livres qui viennent...
Ben oui, récents, oui, parce qu'on trouve que c'est... Ben, déjà qu'il faut attendre 4 à 5 mois lorsqu'on est non-voyant ou qu'on a un problème de perception avant de mettre la main sur un livre, sur une nouveauté. Alors, je me dis, oui, parlons plutôt surtout, mais quand même, voyez-vous, la semaine prochaine, on parle de Duras. Alors,
De Duras, et moi, je voudrais bien revenir après pour parler du livre sur l'Angola dont nous avons parlé toutes les deux.
Ça y est,
quand
ils veulent déjà revenir. Ils sont tous pareils. Ils se font tirer l'oreille pour venir une fois et ils ne sont pas encore partis, ils veulent déjà revenir et c'est pour ça qu'on les aime.
Encore que je ne sais pas comment ça va se passer.
Mais là, vous avez choisi...
Alors, j'ai choisi...
Présentez-nous le livre dont vous voulez nous parler.
Alors, c'est un livre écrit par Delphine Renard, dont le titre est « Tu choisiras la vie », publié chez Grasset. Et c'était... Ce livre est une espèce de biographie, autobiographie, qu'elle a fini par publier au moment du cinquantenaire de l'attentat contre Malraux, dont elle a subi elle-même les conséquences, puisque Malraux n'a pas été touché à ce moment-là. Alors, c'est une bombe que les gens de l'OAS, l'armée secrète d'Algérie, avaient lancée pour blesser Malraux.
En 62.
Hein. En 62, en février 62. Les dates sont très importantes pour Delphine Renard, parce qu'elle fait souvent des rapprochements entre les dates de ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Bref, elle a, elle a subi, elle, les conséquences de l'explosion de cette bombe.
Parce qu'ils se sont trompés d'étage, hein. C'est un truc tout bête comme
Malraux
ça.
Malraux était locataire depuis de nombreuses années de ses parents, donc à Boulogne. Il habitait à l'étage, aux deux étages supérieurs, je pense, au troisième et quatrième étage, je ne sais plus, une grande maison de Boulogne. Et oui, mais la bombe a éclaté à son étage à elle, dans sa fenêtre à elle. Le verre a éclaté, évidemment, c'est elle qui en a subi les conséquences et les contre-coups, puisqu'elle a eu du verre partout, qu'elle a presque tout de suite perdu un œil.
Oui.
Elle a d'abord été soignée à Paris. Et ensuite, elle a été aux États-Unis, à New York, pour une véritable reconstruction du visage et d'autres parties de son corps aussi, sur tout ça. Et en passant, elle souligne bien, puisque son père est employé chez Renault, d'un poste assez important quand même, c'est le patron qui a payé, pour qui a couvert les frais du voyage en bateau, première classe, papa, maman et fillette, pour aller à New York. Et donc, c'est un incident qui a changé sa vie au complet, mais qui, dans le livre, n'a pas beaucoup d'importance. C'est beaucoup plus sa personnalité, ses rapports avec les autres, ses problèmes de communication avec les autres et tous les moyens qu'elle a utilisés au cours des quasiment 50 dernières années avant la publication.
Oui, parce qu'elle avait 4 ans, je m'excuse, quand c'est arrivé. Hein.
Elle est née le 7 février 1962. Non, c'est faux.
Non.
C'est faux, c'est l'explosion. Elle avait 4 ans et demi à ce moment-là. Donc, si on enlève 4 ans, ça veut dire 58.
Oui, c'est ça.
57, 58.
Et donc, elle a passé toute la vie à se reconstruire, mais pas seulement au niveau de son visage et au niveau de sa cécité.
La reconstruction de son visage, c'est au début à New York.
Okay.
Ensuite, ils reviennent en France. Elle reprend l'école, c'est compliqué. Elle a toujours du mal à dire aux autres qu'elle ne voit, pour ainsi dire, pas. Elle se recroqueville sur elle-même. La lecture a été, depuis l'âge de 3 ans, pour elle, une nécessité absolue.
Oui, parce qu'il faut dire que chez nous, en France, on apprend à lire très, très rapidement. C'est vrai. Non, mais il faut le dire, à 3-4 ans, on se débrouille déjà.
Exactement.
Bien.
Donc, elle, depuis l'âge de 3 ans, elle lisait, elle se faisait toutes sortes de petits scénarios dans sa tête aussi. Elle lisait donc, une fois perdue la vue, ou presque, car après la reconstruction, elle a mis énormément de temps à accepter d'ouvrir l'œil qui lui restait pour essayer de voir ce qui était autour. Voilà. Donc, elle n'avait pas accès à la lecture.
Autrement dit, si je vous suis bien, elle s'est coupée du monde, mais pas forcément à cause de l'accident. Je veux dire, c'est dans sa nature profonde.
Exactement, ça semble être dans sa nature profonde. C'est ce qu'elle a compris au fur et à mesure du temps qui passait, au fur et des années qui passaient. C'est ce qu'elle a compris.
Okay.
Elle a tenté beaucoup de choses. Elle a fait un peu plus tard, elle a fait du théâtre, elle a fait du yoga, elle a fait du chant, elle a fait des tas de choses au cours de sa vie pour essayer de se redonner une personnalité vivante, propre. Et c'est, par ailleurs, à la lecture de son livre, c'est une personne quand même qui était capable de faire énormément de choses et qui, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, pouvait, si elle s'était donnée la permission de le faire, pouvait se faire des amis.
Mais avant l'accident, est-ce que c'était déjà une petite fille qui était coupée du monde?
Parce que
je sais qu'avec le père, il y a des problèmes de communication terribles, entre autres.
C'est une famille qui vit en vase clos, à peu près. Elle a, elle, une personne qui est l'élément fondamental de sa vie pendant l'enfance, c'est sa grand-mère paternelle.
OK.
Avec qui elle fait des tas de choses. Mais il est vrai que les parents, tout en étant des gens d'abord assez aisés, ensuite s'intéressant énormément à l'art, aux peintures, qui organisent des expositions, qui mettent sur pied toutes sortes de trucs.
On est dans l'élite française
bourgeoise. On est dans l'élite qui ne veut pas être bourgeoise, d'un certain côté, qui ne veut pas être bourgeoise, mais qui en fait se renferme. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Il y a théâtre, il y a opéra. Elle est allée à l'opéra très tôt dans sa vie, de toute manière. Donc, elle a eu, comme ça, des contacts avec les arts mm-hmm. très, très, très tôt. Avec le sport aussi, un peu. Oui. Peu, parce que ça n'était pas très bien vu. Voilà. Mm-hmm. Elle en a fait un tout petit peu. Et à une certaine époque, à l'adolescence, alors qu'il lui restait encore un éclat de verre dans l'œil qui fonctionnait encore. Donc, ouais. Elle a fait du cheval à un moment, ouais. elle a galopé, et voilà que la petite pièce de verre s'est déplacée. Ça aurait pu être catastrophique à ce moment-là.
Oh là.
Ça ne l'a pas été. Ça lui a permis, en fait, de se débarrasser de ce petit morceau de verre. Mais donc...
Et à quel âge elle est tombée aveugle complètement, finalement?
À peu près à 30 ans.
Alors qu'ils lui avaient dit plus tard.
Ils avaient dit aux parents, oui. vers l'âge de 40-50 ans.
En avez-vous un petit extrait à nous lire, s'il vous plaît? J'apprécierais,
Nicole. Oui, j'aurais quelque chose... Il y a quelques extraits que je pourrais présenter. Mais je pense qu'il y a un extrait qui peut servir non seulement aux personnes qui... sont devenus aveugles ou qui ont une autre oui. maladie. Mais un truc que je trouve assez intéressant, lorsqu'elle parle du noyau dur de la personne. D'accord? Alors, je vais voir ça.
Allez-y.
Alors, elle nous dit bien que, alors qu'elle avait à peu près 22 ans, elle était dans un train, elle a eu envie de dire toucher, mais elle voyait à peine à ce moment-là, mais elle a senti toucher la présence de ce qu'elle a qualifié à ce moment-là de noyau dur, tout au fond d'elle, quelque chose qui voulait vivre à tout prix, envers et contre tout, et quelles qu'en soient les difficultés physiques ou psychologiques. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui lui a permis, au cours de son existence, au moment où elle écrit ce livre, elle a 55 ans, ou à peu près, c'est 50 ans après la catastrophe, donc, et elle a eu à quelques reprises déjà des moments où elle aurait pu mourir à nouveau, ouais. voilà. D'autres circonstances qui ont fait une maladie et autres, qu'elle aurait pu mourir. Et elle a compris que finalement, en elle, il y a ce noyau dur qui va l'amener à toujours s'accrocher, continuer, essayer d'aller plus loin.
Et cette femme qui vit encore, malheureusement, on manque un petit peu de temps, mais cette femme qui vit encore est maintenant psy?
Elle a fait la psychologie. C'est finalement au moment où elle s'est lancée en psychologie qu'elle a compris qu'elle pourrait aussi aider les autres.
Mais oui, c'est ça, parce que, bon, juste une dernière chose, il y avait une critique le 13 mai 2013 dans Bibliops où on disait que son récit est une leçon de courage. C'est marrant parce que je l'entends pas, ça, du tout, dans votre façon de nous en parler. Pour vous, c'est pas là que ça se passe.
Ben non, c'est pas une... Pour moi, c'est pas une leçon de courage, c'est une leçon de vie.
C'est une leçon de vie.
Quels que soient les problèmes, on peut toujours s'en sortir, n'est-ce pas?
Ouais.
Il suffit d'avoir le noyau dur et d'avoir le feu pour y arriver.
Moi, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est quand vous disiez la reconstruction de son corps, chaque individu fait ça tout le temps dans sa vie.
Mais oui.
On se reconstruit d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une fois à l'autre, de quelque chose en tout cas.
C'est vrai.
C'est pour ça que je sentais pas qu'il y avait, comme on dit, que cette femme a été formidable et courageuse. Et non, on a l'impression que ça faisait partie de... Je vais m'en sortir, quoi.
Ouais, ah, bien sûr. Ouais. Je pense que dans le fond, puisque, comme j'ai dit, trois fois, elle a failli mourir. Donc, cette première fois et les autres. Mais pour elle, et d'ailleurs, dans le livre en question, dans le livre qu'elle a rédigé, elle ne parle quasiment pas de la catastrophe en question. C'est le reste de sa vie qui l'intéresse.
Ah, oui.
Et ça n'est pas ce moment-là, ce qui s'est produit. De toute manière, elle n'en a pas vraiment de souvenir. Le souvenir qu'elle a pu réveiller, c'est au moment où elle a lu le livre d'un des fils de Malraux, Les marronniers de Boulogne, où elle entend le récit, vraiment, elle lit le récit de ce qui lui est arrivé et les cris qu'elle avait poussés à ce moment-là.
Oui.
Mais pour elle, c'est quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle n'était pas consciente de ça.
Alors, ce livre, on va redire le titre et le nom de son auteur, s'il vous plaît,
Alors,
Nicole.
Donc, Delphine Renard, Tu choisiras la vie, chez Grasset.
Merci, Nicole. Alors, on se retrouve très prochainement parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche pour l'autre livre. Et tout de suite après, nous allons nous intéresser aussi à l'œuvre de Francine Ruelle, que vous avez d'ailleurs entendu parler à l'instant.
L'invité spécial.
Francine, vous êtes notre invitée spéciale aujourd'hui.
Voilà, c'est bien. C'est chacun notre tour, voilà.
Je vous ai appelée, parce que, ben, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, vous faites partie des auteurs chouchous de Vues et Voix. Au moment de la magnétothèque, déjà, on enregistrait beaucoup vos livres, et maintenant que c'est Vues et Voix, on continue.
Et j'étais porte-parole pendant je ne sais plus combien d'années.
Et vous avez été, c'est ça, hein, donc voilà. vous êtes directement liée à nous, en quelque sorte. Alors, il était normal qu'à un moment donné ou à un autre, je vous invite. Sans compter qu'il y a quelques semaines de cela, j'avais invité l'ami France Castel. Et généralement, les gens qui ne sont pas auteurs, ils ont pour mission, de toute façon, tout le monde, je demande la même question à tout le monde, de nous apporter un livre qu'ils ont particulièrement aimé. Et elle avait apporté votre livre. Et en plus, elle me l'a offert. C'est celui-ci. Alors, il y a plein de petites notes de France ici, quand elle l'avait lu.
Oh, mon Dieu.
Mais c'est pas pour vous, c'est pour moi. Ah, c'est mon livre à moi. Alors, pardon pour le micro. Alors, donc, on a en ce moment, entre autres, il y a plusieurs livres assez récents que je voudrais mentionner, notamment Bonheur es-tu là. En quelques mots, c'est quoi?
C'est une désillusion. C'est la suite et la fin. Non, pas du tout. C'est la fin d'une trilogie qui s'appelait d'abord Et si c'était ça le bonheur? Oui. Maudit que le bonheur coûte cher. Et on finit avec Bonheur es-tu là, parce qu'on n'est pas sûr s'il est encore là.
Oui, c'est ça, parce que ça commence en Toscane, je pense.
Voilà,
tout est beau,
il y a pire dans la vie, vous me direz.
Oui, il y a pire dans la vie. Plus ça avance, et plus c'est catastrophique.
Bien, plus c'est catastrophique, comme parfois la vie. C'est une trilogie sur une jeune femme qui s'est retrouvée au début de la cinquantaine. Je dis jeune femme. Au début de la cinquantaine, qui se retrouve seule avec son chat sous le bras et qui s'en va, qui achète une maison et qui se débat à travers... Les joies et les choses difficiles de la rénovation, et est avec des amis et tout son univers, quoi, qui est là.
Donc, en voilà un premier, donc je voulais que nous abordions. Il y a aussi Cœur trouvé aux objets perdus, ça, c'est une histoire d'amour.
Oui, aussi.
En tout cas, c'est une rencontre.
C'est une rencontre et une histoire de livre. J'avais envie un jour d'écrire sur une lectrice ou... Une femme qui adore les livres. Elle travaille comme libraire un peu partout parce qu'elle est très jeune. Et c'est une histoire d'amour, une espèce de chassé-croisé dans le métro où on lit beaucoup. Alors, c'est un jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune femme sans même la voir.
J'adore
leur prénom. Il est déjà amoureux. Il voit ses cheveux, il voit son dos. Mais à chaque fois, il apprend de cette femme d'après ce qu'elle lit, parce qu'il voit toujours par-dessus son épaule ce qu'elle est en train de lire, mais à chaque fois qu'il veut la voir, de voir son visage, ça ne marche pas, elle descend du métro, lui est coincé, il y a un chassé-croisé, et il est déjà amoureux d'elle alors qu'elle ne se trouve pas belle.
Ah!
Voilà.
Bon.
Voilà.
Allez, une autre.
Et puis, c'est une fille, quoi.
Oui, c'est ça, c'est une fille, quoi. Et puis, Ma mère est un flamant rose.
Ouais.
Ça, Ma mère est un flamant rose. Avant qu'on en parle, je vous propose de réentendre un petit extrait de l'émission avec France Castel lorsqu'elle est venue nous parler de votre livre, Ma mère est un flamant rose. Pourquoi ce livre, Ma mère est un flamant rose, de Francine Ruel?
Écoute,
qu'est-ce qui t'a touchée?
Qu'est-ce qui m'a touchée, c'est d'abord le récit et la façon qu'on suit cette petite Franchon, et avec la description de sa mère et l'époque qui correspond exactement à ce que à l'époque où moi j'étais, dans le sens, c'est en 1944. J'aime beaucoup maintenant cette façon qu'ont les auteurs de décrire leur rapport avec les mères plus d'une moderne. Oui. Je trouve que c'était un manque. Oui. On avait toujours des mères trop idéalisées, trop parfaites.
La mère dans les ploufs.
Ou les grands sacrifices. Oui. Et puis moi, en tant que mère pas kosher, j'avais besoin d'être de quelque part, de d'autres sortes de... Et je pense que ça correspond bien à un
Mais
manque.
Surtout que sa mère, c'est quasiment une des premières féministes. Enfin, elle a
absolument.
En plus, elle élève quoi, 5 ou 6 filles?
Cinq filles seules. Moi, j'ai beaucoup aimé cette mère.
Qui a quelque chose de toi, un petit peu.
Cette mado, je pourrais la jouer, en tout cas.
Une fumeuse.
Même moi, je fume plus.
Non, mais à l'époque, et puis, avec en plus une voix de fumeuse.
Avec une voix de fumeuse, avec un chien, avec mes petites filles, on va se débrouiller.
Ah, oui.
Avec un petit amant secret, avec non, on va faire ça. Et quelque part, quelque chose de ma mère. Ça m'a touchée. C'est une période de ma vie où j'aime beaucoup le recul et la description et les livres sur les mères, les autres sortes de mères.
Voilà, retour à la réalité aujourd'hui.
Merci France Castel, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Ben écoutez, c'est réciproque. Ça, ouais. C'est réciproque parce qu'elle m'a parlé de vous aussi.
C'est une femme très touchante.
En bien, oui. Hein, ben oui, ben oui. Moi, c'est une vieille amie
on
à moi.
Aime,
mais
celle-là.
En tout cas, oh oui, on les aime puis on les garde, ça c'est certain. Alors, c'est ça, c'est un... De la façon dont elle en parle, c'est vrai qu'il y en avait quand même des mères comme ça qui se démarquaient de toutes.
Dans mon entourage, elle était la seule. Hein. Ah, c'est qui était un peu la catastrophe parce que quand on est enfant, c'est pas ça qu'on veut. On veut la norme, on veut une mère ordinaire, on veut une mère comme les autres. Alors que, avec l'âge, on comprend qu'on avait une mère formidable, une mère fantastique, mais qui n'était pas toujours très drôle, mais qui avait cette façon de nous élever, de nous faire avancer en avant.
Ouais, hein.
Tu choisiras la vie. Il y avait de ça chez ma mère. J'ai été élevée comme ça et je lui dois des choses formidables. La personne qui m'a appris à me tenir debout dans la vie, quoi qu'il arrive, c'est à elle que je dois.
Ouais,
ouais. J'ai fait... Une drôle de constat en écrivant le livre aussi, j'ai comme réalisé un jour, souvent les filles, on a la force du père qui nous dit « t'es capable, tu peux y arriver ». Le mien, j'avais 7 ans, il est parti. C'est comme si mon père était mort.
Ouais.
Mais j'ai réalisé un jour que j'avais pas peur dans la vie, d'à peu près rien. Et j'ai réalisé que c'est ma mère qui m'avait donné ça. J'ai pas peur. Ma mère m'a appris à essayer, à dire, bon, peut-être que la porte va se refermer, peut-être qu'il va y avoir un non, mais il faut essayer avant. Alors, j'ai voyagé seule dans la vie. Bon, je suis prudente, je fais attention.
Oui.
Je ne suis pas casse-gueule, mais je n'ai pas peur d'emblée. Je ne dirais pas d'abord, oh non, je vais avoir peur, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. J'y vais, j'y vais. Et c'est elle qui m'a appris ça.
Et l'écriture?
Oui, c'est pas simple à écrire sur sa mère, sur sa famille.
Mais...
J'ai attendu très longtemps.
Non, mais il y a des belles choses. Regardez, j'ai émaillé votre livre. Il y a plein de petits post-it partout parce que moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Une phrase ou deux, par exemple. Le fil enroulé, on parle du fil de téléphone, le fil enroulé était étiré sur toute sa longueur à partir de l'appareil fixé au mur. Parfait, on voit très bien l'image. Ma mère est pendue au bout du fil, littéralement. Oh mon Dieu, Franchon avait déjà commencé à jongler avec les mots, avec les tournures de phrases. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez appris très jeune à faire.
Oui, ouais. Un peu grâce à elle aussi. Je le raconte dans « Décrivez votre jardin ». On était pensionnaires parce que ma mère avait décidé que c'était important qu'on ait une très bonne éducation. On était dans des collèges d'enfants riches.
Ouais.
Alors qu'on était pauvres, les bonnes sœurs nous l'ont remis sur le nez assez souvent. Merci. Elles étaient tellement extraordinaires, ces bonnes femmes, parfois.
Oui.
Tellement méprisables. Elles étaient effrayantes. Alors, ma mère arrangeait les choses. Ma mère débarquait souvent chez la directrice pour remettre les choses en place. On adorait notre mère dans son endroit, disant « Fiouf, maman nous défend ». Mais l'histoire du jardin, bon, je suis toujours bonne en français, j'adorais les mots, j'adorais la langue. Et j'ai eu à écrire un jour, étant pensionnaire dans un collège de filles riches, « Décrivez votre jardin ». Et j'étais rentrée chez moi catastrophée parce qu'on nous obligeait à faire une description et non pas à inventer. À inventer, j'aurais su le jardin, je l'aurais inventé. Mais c'était une description. Et moi, j'étais très scolaire, donc très académique.
Oui, oui.
Je dois décrire. Mais moi, j'ai une cour ordinaire avec de l'asphalte, des sheds, comme on appelait, pas d'arbres, rien. Alors que je sais que toutes les autres filles vont écrire sur la piscine, les haies, leur maison formidable, le jardinier qui aide et tout. C'est deux mondes. Quand on est en uniforme au collège, il n'y avait pas de différence. Mais quand on commence à décrire son univers, il y en a une énorme. Et j'en voulais à ma mère ce jour-là qui m'a forcée à aller m'asseoir dehors avec papier et crayon en disant « Tu ne te lèves pas de là tant que tu n'as pas décrit ce que tu vois. » Et j'ai écrit ça et je me dis « Ma mère m'envoie à la potente, je vais me faire tuer. » Et en plus, je suis sûre, la sœur va lire mon texte en disant « Regardez comme c'est ridicule. » J'étais convaincue de ça. Et effectivement, quand j'ai donné mon devoir avec les autres, la bonne sœur a dit « Je vais en lire qu'un seul texte parce qu'il est différent des autres. » Je disais « Ça y est, ma vie est finie. » Et elle avait lu le texte en disant « Je le lis parce qu'il est différent des autres, parce qu'il y a de la tendresse dedans.
Ah. »
Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un auteur peut recevoir. Moi, j'admire ça chez Michel Tremblay, qui écrit des gens durs, pauvres, dans la misère, dans leur petit monde, dans leur
complications de vie, mais ils les aiment et on les aime. Alors,
mais c'est ce qu'on ressent aussi dans, dans votre livre. Écoutez, je connais France, hein, Castel, puis je me connais aussi. Et je sais qu'on a besoin de cette tendresse-là, nous, dans les livres que qu'on lit. D'ailleurs, ça va m'amener peut-être à abandonner un petit peu Francine Ruelle.
Je vais juste amener un petit détail que j'ai triché, parce que c'est un récit, mais c'est un faux récit. Ah. Parce que comme je suis connue un peu en tant que comédienne, animatrice et tout, je ne voulais pas l'écrire au jeu. Il n'est pas écrit au jeu, un récit, on écrit au jeu. Tout à l'heure, je vais demander à la dame le livre dont elle parlait, s'il était au jeu ou pas. C'est-à-dire que j'ai cherché une façon de faire pour ne pas l'écrire au jeu, pour ne pas qu'on dise « Ah, c'est Francine Ruelle », mais que le personnage principal, ça ne soit pas moi qui raconte, mais que ça soit ma mère dont on parle. Alors, c'est mon éditeur qui a eu l'idée du Franchon. Alors, voilà, je me suis retrouvée...
C'est comme ça que j'ai répondu tout à l'heure, c'est le livre... de Franchon.
C'est ça. Ma mère m'appelait comme ça. C'est la seule personne qui m'a jamais appelée comme ça.
Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose?
Oh, ben, je vous en prie. On risque de manquer de temps pour les autres livres, mais à la limite, peut-être que vous allez rester avec nous un petit moment.
On va voir.
On va voir. Delphine Renard, au contraire, elle avait des parents qui l'empêchaient de faire des choses, qui voulaient la protéger, beaucoup trop protéger.
Alors que votre mère, elle vous poussait.
Oh,
vous,
ma mère
Francine.
Me poussait. Ou alors, elle, ce qu'elle faisait de formidable, je me rappelle une fois, j'étais déjà au conservatoire, ça marchait, mais on travaillait comme des fous le soir, la nuit. On travaillait sans arrêt. Et je m'étais plaint que c'était épouvantable, que c'était difficile. Et elle m'avait arrêté tout de suite en disant stop. Est-ce que tu penses que tu as du talent? Si tu crois que tu as du talent et que tes professeurs pensent que tu as du talent, alors tais-toi. Assume ton talent ou enlève-toi de là. Et ça avait été comme. Des fois, j'accepte un truc qui me donne un trac épouvantable, puis je me fais « Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi? » Et il y a une petite main ici qui me dit « Garde, assume ton talent, tais-toi, vas-y, go. » Et j'ai encore maintenant, elle est encore présente, elle est encore là, quoi.
C'est dit dans le livre, vous l'avez dit dans le livre, d'ailleurs, ça.
Oui.
Je vous invite, si vous le voulez bien, vous savez, j'ai toujours l'habitude d'être très, très honnête avec mes auditeurs. Et là, nous avons un invité qui semble nous avoir fait faux bond. Et écoutez, du coup, je vais avoir une dizaine de minutes. Alors, comme je le disais hors antenne, de toute façon, parler de bouquins, j'aurai jamais de problème avec ça. Mais vous êtes tellement passionnante l'une comme l'autre. Francine Ruelle, accepteriez-vous de rester encore pour un petit 10 minutes, histoire de nous parler?
Parce que tout de suite après, j'ai une rencontre avec mon éditrice parce que j'amène du texte pour le prochain roman.
Je vais vous faire une lettre d'excuse. Et puis donc, on se retrouve d'ici quelques secondes autour de l'œuvre, autour de deux livres de Grégoire Delacour que vous affectionnez particulièrement, Francine Ruelle.
Écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Desailles et ses invités.
Et comme je vous le disais, Francine Ruelle a eu la gentillesse de rester avec nous pour prendre une minute ou deux pour nous parler d'un auteur que vous aimez beaucoup, Francine.
Oui, que j'ai découvert par hasard, La liste de mes envies de Grégoire Delacour.
Ouais.
J'ai commencé par son deuxième roman et je suis tombée amoureuse de cette langue, de cette façon d'écrire. Il est, c'est un publicitaire qui a travaillé en Belgique beaucoup. Et après, j'ai lu son premier roman, son premier récit, en fait, qui est L'écrivain de la famille. Alors, il raconte comment il est devenu, comment ses parents étaient fiers de lui parce qu'il avait fait une petite composition et tout. C'est tout le temps touchant, son écriture, tout le temps. Et le dernier, on ne voyait que le bonheur qui est beaucoup plus dur, plus dense, plus... Mais c'est des trajectoires d'humains simple. La liste de mes envies, c'est une femme qui est mercière, qui a un choix à faire dans la vie, que Elle fait la liste de ses... Est-ce qu'on a besoin de tant de choses que ça? Et c'est plein de rebondissements jusqu'à la dernière seconde. On ne voit pas les choses venir, mais il y a une tendresse exceptionnelle. Oui. On ne voyait que le bonheur à Lizzie sauter dans ce livre.
Ah oui, absolument.
Qui est d'abord écrit au jeu par un Antoine, mon Dieu, qui fait pitié, qui s'occupe d'assurance, puis qui s'occupe des gens, sa famille, comment c'est pas simple, sa vie, sa mère qui est partie et tout, etc. Et à la fin, il y a comme quelque chose de très étonnant. Il pose un geste terrible. Et le roman change de voix. Et c'est cette personne-là qui était atteinte parce qu'on... Je ne veux pas voler les punchs.
Non. Mais on dira que le pardon, que c'est un livre beaucoup sur le pardon.
Sur le pardon et sur comment on est très près de l'ombre et de la lumière tout le temps, que nos vies jouent à travers ça tout le temps. Et c'est de quel côté on bascule, quel côté on décide d'aller voir, d'aller fouiller. Mais il est près des humains, cet auteur. Il est adorable, formidable. En plus. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer dans un salon du livre. C'est un bon... Il prend un temps fou avec chaque lecteur. J'ai fait la file et c'était long avec chaque personne. Il a fait la même chose avec moi. Alors, ça, j'étais ravie. Il prend le temps de parler à ses lecteurs et de discuter de la vie avec eux. Alors, vie à cet homme.
Comme vous avez pris le temps, Francine, de venir vers nous et de nous parler de vos écrits, mais aussi de ceux de Grégoire Delacour. Je vous rappelle les titres, La liste de mes envies et On ne voyait que le bonheur, tous deux disponibles via le SQLA. Merci beaucoup, Francine. Je sais que vous avez un rendez-vous, je vous laisse aller.
Oui, mais
avant vous me signez mon bouquin, c'est sûr.
Un rendez-vous d'éditeur pour le prochain. Alors...
Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Jean Brière, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien vous?
Oui, ça va bien. Je vous remercie. J'avais hâte que vous veniez nous parler de cet Américain à Paris, parce que finalement c'est un peu ça, ce monsieur Ted Stanger.
Oui, tout à fait. C'est un journaliste américain qui vit à Paris depuis 1993 à peu près. Et puis, il se fait, dans ses chroniques, le pourfendeur de la rectitude politique. Il est très intéressant. Il essaye d'expliquer aux Français l'Amérique ou essayer d'expliquer aussi aux Français comment un Américain les perçoit.
Oui, c'est ça. Hein? Mais alors, dites donc, les Français, nous, on y goûte. Hein?
Ah oui,
on a
tous
les travers possibles. Parlez-nous de ça un petit peu.
Je pense aussi qu'il regarde son peuple américain sans ménagement également. Puis ces trois livres dont je veux brièvement parler, Ted Stanger a publié d'autres livres en France, mais ces trois particuliers sont disponibles chez nous. Puis ils sont très intéressants parce que, d'abord, il fait de la chronique, ce qui est un genre littéraire fort intéressant, où il raconte une histoire tout en se permettant une opinion, toujours avec un zeste d'humour. Là. Mm. C'est vraiment bien. Le premier livre, le plus récent, c'est Sacré Maison Blanche.
Oui, OK.
Ça, c'est un livre qui est publié en 2008 où on explique les dessous de la folle politique américaine.
Puis Dieu sait si c'est compliqué.
Ah oui, notamment en parlant de l'élection de 2008 qui a porté Obama au pouvoir. Là. Alors ça, c'est disponible à la fois au SQLA ou à l'INCA, c'est votre choix.
Oui, d'accord.
Le second livre, c'est « Sacrés Américains ».
Oui.
Nous, les Yankees, on est comme ça. Alors ça a été publié en 2004, mais c'est encore assez actuel. Il veut, dans ce livre-là, donner ses impressions sur l'Amérique post-11 septembre. Il veut expliquer ça aux Français. Puis je pense que ça s'adresse à nous aussi. On peut très bien comprendre là, les explications qu'il donne, parce que vous savez, ici, au Québec, on entend souvent dans les médias toutes sortes d'opinions et de critiques sur l'Amérique. Mm-hmm. Mais avant de critiquer, je pense que ça serait pertinent de tenter de comprendre. Alors lui, il nous permet de le faire par les explications où il parle justement de toutes sortes de thèmes sérieux et plus légers sur l'Amérique, les préjugés, le mode de vie. Alors c'est très intéressant. Ouais.
Le sexe, par exemple, le sexe à l'américaine, qui est à la fois très, très puritain, puis en même temps, c'est complètement débridé. En tout cas, ça m'avait fait rire aussi.
Il illustre savamment, puis très agréablement, les paradoxes.
Oui.
Puis il fait la même chose. Le deuxième est disponible à l'INCA. Mm-hmm. Et il fait la même chose dans son livre le plus, je dirais, ancien, là, oui. 2003. C'est pas si vieux que ça, quand même.
Non.
Mais chronologiquement, où il parle, ça s'intitule « Sacré français, un Américain vous regarde
». Et attendez, parce que vous savez que c'est un Américain « nous regarde ».
« Nous regarde », oui.
Hein, c'est ça, hein?
Parce, oh, ben, que... parce que je vous parlais à vous, pas quoi.
Je le prends bien, je le prends pas personnel. Alors là, donc, c'est là où je vous disais qu'effectivement, bon, bah, tous les travers des Français, mais que finalement, c'est un peu pour ça qu'on les aime aussi, tout, oui. Tout y est, hein?
Oui, c'est ça. Ils disent justement dans la présentation, les Français aiment bien critiquer les Américains, mais eux... mais les Américains, que pensent-ils de la société française, de l'organisation, les manifestations, les syndicats omnipuissants, etc.
Oui.
C'est vraiment passionnant, et puis ça nous permet de connaître davantage nos voisins proches, les Américains, puis nos voisins de l'autre côté de l'océan, les Français.
Est-ce que vous aviez quelques exemples à nous citer? Parce que moi, j'en ai quelques-uns là, sous les yeux qui m'ont tellement fait rire, peut-être parce que je suis moi-même française, mais comme par exemple, l'automobiliste français est le seul ayant fait philo au lycée qui soit capable de justifier ses excès de vitesse.
Oui.
Nicole aussi, Nicole Châtelain, qui est à côté de moi, qui rit encore. Je la trouve bien drôle. Du côté des Américains, ah, ça, j'avais trouvé ça tellement drôle. La permettez, Jean?
Oui, je vais simplement préciser que le dernier livre dont on parle, Sacré français, lui, il est disponible aussi à l'INC.
Oui, c'est ça. Hein. Alors là, entre autres, il y a un passage de Sacré américain. Je vais déjeuner dans un restaurant de Columbus réputé pour sa viande cuite au feu de bois et commande un hamburger à la serveuse qui m'interroge sur la cuisson. Saignant, s'il vous plaît. Elle me jette un regard comme si j'étais Jack l'éventreur. Désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas satisfaire votre demande. Nous n'avons plus le droit de servir de la viande saignante. Ça, c'est bien l'Amérique, hein?
À cause des poursuites.
C'est ça, exactement.
Effectivement, mais je suis en train de le relire, celui-là. Je le relisais pour les fins de l'entrevue. Mais c'est pas un supplice de le relire parce que j'adore ça. J'aime sa plume aussi. Il y a une façon d'écrire toujours pince sans rire qui est fort agréable.
Écoutez, là, je vous dis, là, avec tous les exemples que j'ai sous les yeux, effectivement, ça me tente beaucoup d'aller me procurer cela. Jean Brière, donc, est-ce que vous aviez autre chose à nous préciser sur ces livres et sur cet auteur, Jean?
Non, simplement que je le recommande chaleureusement à vos auditeurs. Trois petits livres fort intéressants.
Alors, je vais me faire un plaisir tout de suite de redonner le nom de cet auteur. C'est Theodore Stanger, qu'on appelle aussi Ted Stanger. Stanger. Alors, Sacré français, un Américain nous regarde, on peut trouver ça à l'INCA. Sacrés Américains, nous les Yankees, on est comme ça, on trouve ça également à l'INCA. Et puis Sacré Maison Blanche, ça on trouve ça au SQLA. Est-ce que j'ai bien résumé les choses?
Oui, et à l'INCA, le Sacré Maison Blanche se trouve aux deux endroits.
Aussi, aux deux endroits. Bon, ben, écoutez, Jean, je vous remercie beaucoup parce que moi, j'aime toujours ça, ces auteurs aussi. Comment s'appelle cet auteur anglais qui me vient à l'esprit, mais dont le nom ne me vient plus, qui a vécu dans le sud de la France? Peter Mayle. Et qui a écrit sur la Provence. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime bien quand on nous martyrise un peu.
Oui, moi j'aime beaucoup la chronique journalistique comme Stanger. Puis ici au Québec, il y en a un qui en fait de la très bonne chronique, c'est Stéphane Laporte dans La Presse.
Ah, ben oui.
Il fait des recueils qui sont probablement disponibles. Moi j'adore ça.
Ils sont disponibles, mais je vais vous dire, j'en ai rarement parlé parce que j'ai souvent invité Stéphane Laporte et on n'arrive pas à le faire venir. C'est dommage, mais en même temps, on le respecte parce que c'est quelqu'un qui est très... très pris à droite et à gauche, hein,
ben oui.
Entre ses chroniques, entre toutes les émissions de télé, tout ça. C'est quelqu'un qui travaille fort. Alors bon, que voulez-vous? Mais oui, c'est enregistré, effectivement, au SQLA, ça c'est sûr.
D'excellents recueils.
Merci beaucoup. C'était Jean Brière qui nous parlait de Ted Stanger. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Jean.
À une prochaine fois.
À une prochaine, au revoir.
De bouche à oreille, une page de littérature.
Alors ça, vous le savez, c'est un petit peu comme la bande-annonce. Toutes les semaines, je vous arrive avec un ou deux ou trois livres dont nous allons parler la semaine prochaine. Eh bien, il y a d'abord, c'est Bernard Tremblay qui va nous dire par téléphone, Bernard Tremblay qui est non-voyant et qui a lu « La saison de l'ombre » de Leonora Miano. Un résumé. Si leurs fils ne se sont jamais retrouvés, si le Ngambi ne révèle pas ce qui leur est arrivé, on ne racontera pas le chagrin de ses mères. La communauté oubliera les 10 jeunes initiés, les 2 hommes d'âge mûr, évaporés, littéralement évaporés dans l'air au cours du grand incendie. Du feu lui-même, on ne dira plus rien. Qui goûte le souvenir des défaites ? Nous sommes en Afrique subsaharienne, quelque part à l'intérieur des terres, dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu et leurs mères sont regroupées à l'écart. Mais alors, quel malheur vient de s'abattre sur le village ? Où sont les garçons ? Et c'est au cours d'une enquête initiatique et périlleuse que les émissaires du clan, le chef Mukano et 3 mères courageuses vont comprendre que leurs voisins, les Bewele, les ont capturés et vendus à des étrangers venus du nord par les eaux. C'est un roman puissant, Leonora Miano qui revient sur la traite négrière pour faire entendre la voix de celles et ceux à qui elle a volé un être cher. C'est l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Et cette histoire-là s'y drape en quelque sorte dans une prose absolument magnifique et mystérieuse, imprégnée de mysticisme, de croyance et de l'obligation d'inventer pour survivre. Un livre vraiment très chouette dont va nous parler Bernard Tremblay la semaine prochaine. J'ai un tout petit extrait pour vous qui dit ceci. Les femmes dorment. Dans leur sommeil, il leur arrive une chose étrange. Comme leur esprit navigue dans les contrées du rêve qui sont une autre dimension de la réalité, elles font une rencontre. Une présence ombreuse vient à elles et chacune reconnaîtrait entre 1000 la voix qui lui parle. Dans leurs rêves, elles penchent la tête et tirent le cou, cherchent à percer cette ombre, voir ce visage. L'obscurité, cependant, est épaisse. Elles ne distinguent rien. Il n'y a que cette parole. « Mère, ouvre-moi, afin que je puisse renaître. » Voilà, c'est un extrait de « La saison de l'ombre » présenté la semaine prochaine par Bernard Tremblay. Et puis, la semaine prochaine aussi, « Un fou furieux » de Marguerite Duras, qui vient nous reparler de l'amant. C'est André Lavoie, qui est journaliste pigiste, notamment dans les pages culturelles du Devoir. Bon, faut-il rappeler que l'amant, c'est l'un de ces récits d'initiation amoureuse parmi certainement les plus troublants qui soient. Écrit dans une langue très pure, pure comme le sourire de cette jeune fille. C'est Marguerite Duras qui confie sa rencontre et sa relation avec un rentier chinois de Saïgon. Vous vous souvenez peut-être aussi du film qui a été tiré de ce livre de Marguerite Duras. Il a été mis en image par Jean-Jacques Hanau, qui a signé donc L'Amant. J'ai aussi un petit extrait pour vous, si vous le voulez, sur du Chopin, puisqu'il en est question. Et une autre fois, c'était encore au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan, la nuit de même était déjà commencée, il s'est produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin qu'elle connaissait de façon secrète et intime, parce qu'elle avait essayé de l'apprendre pendant des mois et qu'elle n'était jamais arrivée à la jouer correctement, jamais, ce qui avait fait qu'ensuite sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano. Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits, de cela elle était sûre, la jeune fille l'avait sûrement justement passée sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose s'était produite, cet éclatement de la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillance. Il n'y avait pas un souffle de vent et la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Alors donc, L'amant de Marguerite Duras, dont il sera question avec André Lavoie la semaine prochaine, et nous évoquerons aussi l'œuvre de Laure Adler sur Marguerite Duras. C'est une biographie que Laure Adler avait signée en 1998, je pense, sur Marguerite Duras.
Des nouvelles et des livres.
Vous savez peut-être que Pierre Foglia est à la retraite maintenant. Oui, on est plusieurs à être pas mal tristes. Et quelques semaines avant qu'il ne parte à la retraite, comme ça, sans nous le dire en plus ou presque, il nous avait invités à participer à un book bucket. Voici d'ailleurs des extraits de ce book, de l'article où il était question de ce book bucket. Sur l'internet, écrivait Pierre Foglia, dans la presse, le book bucket vous invite à dresser une liste de 10 livres qui vous ont marqué, inspiré, transporté dans votre vie, un choix qui doit se faire dans l'instant. Il ne s'agit pas de se bricoler une liste pour bien paraître. Harry Potter, c'est ce qui vous vient à l'esprit? Ok, Harry Potter, tant pis pour Flaubert. Cette spontanéité-là, la question n'est pas du tout quelles sont, selon vous, les 10 plus grandes œuvres littéraires de l'histoire. Le book bucket, donc, plus de 100 000 réponses à ce jour. 100 000 listes compilées sur les réseaux sociaux et justement, très largement en tête, plus de 20% des réponses, Harry Potter. Ensuite, les Tolkien, Hobbit et autres Seigneurs des Anneaux, puis la Bible. 65% des listes sont américaines, 10% indiennes, 6% anglaises, trois fois plus de femmes que d'hommes. La dernière fois que j'y suis allée voir, le premier livre écrit en langue française arrivait en 31e place, tout juste après Shakespeare, « The Little Prince ». Ben oui, il n'est pas tuable ce petit Chris-là, écrivait Pierre Foglia. Pourtant, on ne peut pas dire que j'ai pas essayé souvent. Alors, anyway, nous demandait-il, est-ce qu'on s'en fait une liste, je veux dire, est-ce qu'on s'en fait une dans l'esprit du book bucket, sans réfléchir, les 10 titres qui vous viennent là, tout de suite? Allez, je commence, a-t-il dit. Eh bien, moi, je vais faire autre chose. Je vais dire, allez, à vous qui nous écoutez en ce moment, on s'en fait une liste, je veux dire. Allez, on s'en fait une dans l'esprit du book bucket, sans réfléchir. Si je vous demande à vous, auditeurs de Canal M, émission à livre découvert, sans réfléchir, vous me donnez les 10 titres qui vous viennent là, tout de suite, à l'esprit. Je vais vous donner deux moyens pour nous les envoyer, cette liste, ces listes. Alors, vous pouvez soit le faire via le mail, en nous envoyant cela à l'adresse canalm, en un seul mot bien sûr, vusezvoix.com. Donc, canalm@vusezvoix.com pour nous envoyer votre liste, votre book bucket, votre top 10 à vous. Ou alors encore par téléphone, si cela vous tente. Si vous n'avez pas Internet, c'est bien correct aussi. Vous pouvez envoyer cela au 1-800-361-0635, poste 220. 1-800-361-0635, poste 220. Parlez très clairement surtout, hein, parce que comme il va y avoir une personne qui va prendre ça en note, donc dites-nous bien le titre et l'auteur. Tiens, juste pour s'amuser comme ça, les titres de M. Foglia, les miens, vous les aurez la semaine prochaine, c'est promis. Alors, les titres de M. Foglia, Les années d'Annie Ernaux, ça c'est disponible à l'INCA, au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses, Annie Ernaux donne à ressentir le passage des années, de l'après-guerre à aujourd'hui. En deux, pour Foglia, ce serait comme ça spontanément, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, également disponible à l'INCA. Au fil de son voyage, étape par étape, Céline qui côtoie sans cesse la misère humaine et qui s'indigne, cynique et sombre, comme la nuit. En troisième, pour Foglia, ce serait « Si c'est un homme » de Primo Levi. Ce livre est sans conteste l'un des témoignages les plus bouleversants sur l'expérience indicible des camps d'extermination. En quatrième, ce serait « L'attrape-cœur » de Salinger, l'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu. Ensuite, en 5 et 6, ce sont des livres qui n'existent pas. En fait, ce sont des livres hyper rares. Soit « Promenade avec Robert Walser » et « Dialogue en ruine ». J'ai cherché à peu près partout, voir s'il y en aurait une version audio. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il nous dit que ce monsieur Walser est un écrivain et poète suisse-allemand qui est surtout salué par les écrivains. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à trouver ça. Par contre, au niveau de Dialogue en ruine, ça c'est de Laurent-Michel Vaché. Nous n'avons pas Dialogue en ruine nulle part, mais il dit que de Laurent-Michel Vaché, il y a aussi un autre livre qui s'intitule Une petite fin du monde. Et il dit que c'est peut-être le plus beau livre qu'il a lu sur la mort. Ici, c'est la sienne, survenue en 2005 à Laurent-Michel Vacher, Une petite fin du monde, et ça, c'est disponible au SQLA. En septième, un livre que nous n'avons pas non plus, qui s'intitule 1275 âmes, ni au SQLA, ni à l'INCA, mais ensuite, on se retrouve avec Madame Bovary, de Gustave Flaubert, et puis quelques livres sur l'écriture et le vélo qu'on ne trouve pas non plus, qui sont des raretés que M. Foglia arrive. Alors voilà, c'était pour lui son top 10. Je vous rappelle que je vous invite à nous faire parvenir le vôtre. Vous écrivez à Livre Découvert. L'adresse courriel, vous pouvez l'adresser à Clotilde ou à l'émission à Livre Découvert. L'adresse courriel, canalm@vusezvoix.com ou le téléphone 1-800-361-0635, le poste 220. Ma liste à moi, c'est pour la semaine prochaine.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, quelques titres en rafale. Je commencerai par le Dictionnaire amoureux du Québec de Madame Denise Bombardier. J'ai deux critiques pour vous. Honnêtement, je ne l'ai pas lu encore. J'ai une critique de Christian Demeul du Devoir, une autre de Lise Ravary pour Magazine Force. Alors, dans le Devoir, on nous dit « Ce dictionnaire amoureux du Québec résonne comme un long lamento nostalgique à l'endroit d'un Québec qui n'existe plus. » De manière sinueuse, à coups de commentaires moraux disséminés ici et là, ce dictionnaire amoureux du Québec est bien entendu l'expression d'un fascinant et complexe rapport amour-haine envers le Québec, pays plus métaphorique que réel. Pour ajouter à la confusion, le livre s'ouvre sur l'illustration d'une feuille d'érable et se referme sur celle d'un castor. Rien n'y fait. On se sent même un peu voyeur avant de se rappeler que ce livre, en effet, ne s'adresse pas à nous. Et puis la critique de Lise Ravary, elle par contre, elle dit que ce dictionnaire amoureux se révèle une machine à voyager dans le temps, la carte du tendre d'un territoire transcendé, une radiographie de nos travers, de nos peurs et de nos espoirs, un décodeur politique de ce pays plus métaphorique que réel. Quel bond en avant, nous dit Lise Ravary au sujet du dictionnaire amoureux du Québec de Denise Bombardier. Quel bond en avant ce serait si un mécène offrait à chaque étudiant québécois un dictionnaire amoureux du Québec. Faites-vous votre propre opinion. L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt. Existe-t-il un moyen infaillible de rendre quelqu'un amoureux ? Séparés, Louise et Adam habitent désormais à des milliers de kilomètres, lui à Paris, elle à Montréal. Par courrier, ils se lancent un défi, provoquer l'amour à coup sûr. Leurs échanges épistolaires, tout en évoquant les blessures du passé, racontent leur nouvelle vie, leurs nouvelles aventures et leurs réflexions sur le mystère des attirances et des sentiments. Mais le jeu qu'est l'élixir d'amour, un piège qui provoque la passion, ne cache-t-il pas une autre manifestation ? Critique de lecteur, il y en a un pour qui ce stéréotype du couple séparé, nouvelle relation amoureuse, mensonge et coup tordu, c'est du vu et du revu. Par contre, pour un autre lecteur, il nous dit que l'auteur Éric Emmanuel Schmitt aborde ici des sentiments amoureux avec une plume parfaite. Ce roman épistolaire entre deux anciens conjoints dont la relation s'est terminée il y a peu nous montre plusieurs aspects, plusieurs manières d'aborder l'amour. La fête de l'insignifiance de Milan Kundera, Milan Kundera, 85 ans, et ça c'est peut-être son dernier livre dans la lenteur. Il verra la femme de l'auteur, à un moment donné, dit à son mari « Tu m'as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux, mais je te préviens, fais attention, les ennemis t'attendent. » Or, au lieu de faire attention, Kundera réalise enfin pleinement son vieux rêve esthétique dans ce roman qu'on peut ainsi voir comme un résumé surprenant de toute son œuvre, mais un drôle de résumé, un drôle d'épilogue, drôle de rire inspiré par notre époque qui est comique parce qu'elle a perdu tout son sens de l'humour. Que peut-on encore dire ? Rien. Lisez, nous dit ce lecteur. Dans Télérama, on nous disait « Il est de retour avec un roman d'une apparente légèreté. Le grand écrivain mène une réflexion sur l'insoutenable absurdité de l'existence. » Dans Culture Box, Milan Kundera n'avait pas écrit de roman depuis L'ignorance en 2003. Il revient avec La fête de l'insignifiance, un roman écrit en français qui se déroule au cœur de Paris mais invite des personnages marquants de l'URSS. Avec une apparente légèreté, le romancier tchèque devenu français donne un roman nourri de l'âme slave. Et puis, La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Nous sommes en 76 aux Jeux Olympiques de Montréal. Comaneci, Nadia, vient d'effectuer son exercice sur la poutre devant une salle médusée. Des spectateurs aux juges en passant par les gymnastes des autres équipes. Sur le pointage tarde à s'afficher. Puis soudain, on voit 1,0. Zéro, que se passe-t-il? Nadia a-t-elle fait une grosse bêtise que son entraîneur n'a pas vue? La foule conspue les jurés, et soudain, le président du jury fait signe à Nadia, les deux mains, en écartant les doigts. En fait, la petite fée a obtenu la note maximum, mais ceci n'était pas prévu dans l'ordinateur. Elle avait eu la note de 10. C'est donc l'histoire de cette petite fille, Nadia Comaneci, l'auteur qui met bien en évidence le formatage de ces petites filles qui ont eu 6 ans en moyenne quand débute l'école. Elles sont complètement affamées. On compte les calories sans arrêt car elles doivent rester menues, peser le moins possible. Sur le plan de la gymnastique, l'entraînement est inhumain. Elles s'entraînent pendant des heures, les mains pleines d'ampoules. Elles se lancent dans le vide sans savoir qu'elles risquent leur vie ou la paralysie à chaque saut. Mais Nadia est une petite fille perfectionniste et elle a fait tous les sacrifices pour Bella, qui était son entraîneur, et pour la Roumanie. Donc, on nous dit par exemple ici que c'est le roman d'une époque historique sombre, celle de la guerre froide, d'un système totalitaire et d'une jeune fille manipulée par le pouvoir, mais aussi par l'Occident, dépassée par ses performances et l'utilisation de son image de championne. Nadia Comaneci passait du statut d'enfant prodige adoré à celui de grosse femme méprisée, fuyant le régime de Ceausescu en 1989. Un destin terrible donc, procurez-vous ce livre formidable, La petite fille, la petite communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafont, L-A-F-O-N. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à mes invités Jean Brière, Nicole Châtelain et Francine Ruel. Merci aussi à l'ami Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là et bonne lecture. Profitez-en bien, à la semaine prochaine.